présenté par Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Et nous débuterons ce journal avec les derniers éléments connus autour de l'attentat commis hier soir à Vienne. Attentat clairement islamiste, a déclaré ce matin le chancelier autrichien Sébastien Kurz, qui a fait, selon un dernier bilan, au moins 4 morts.
C'est une Amérique anxieuse et divisée qui se rend aux urnes aujourd'hui pour élire son président.
Oui, les sondages donnent toujours le démocrate Joe Biden en position de force, mais le président républicain sortant Donald Trump pourrait encore les faire mentir, comme lors du précédent scrutin. Invité de la rédaction dans une quinzaine de minutes, Mathieu Gallard, directeur d'études au département Public Affairs de Ipsos. En France, le gouvernement a précisé ce matin la liste des produits que les grandes surfaces pourront continuer à vendre pendant le confinement, en plus de ceux déjà considérés comme essentiels. Et puis Veolia doit encore trouver 3 à 4 milliards d'euros pour financer l'achat de l'ensemble du capital de son concurrent Suez, qui ne l'empêche pas ce matin d'accélérer le calendrier de dépôt de son projet d'offre publique. Enfin, 12h55, Olivia, ce sera bien sûr la grande table des idées.
Il est reparti d'un aphorisme de Nietzsche. Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude. Et il signe aux éditions de l'Observatoire La passion de l'incertitude. Avec nous, le philosophe Dorian Astor à partir de 12h55.
C'était la dernière soirée avant le reconfinement. Il faisait exceptionnellement doux. Les amateurs de musique profitaient d'un ultime opéra quand d'autres buvaient un dernier verre entre amis. Et brusquement, dans la quiétude de la capitale autrichienne, des assaillants ont surgi, faisant résonner de leurs armes automatiques le fracas de la terreur. Le dernier bilan actualisé de l'attentat survenu hier soir à Vienne s'établit à au moins 4 morts et une quinzaine de blessés, dont 7 dans un état grave. Ludovic Piétenu, bonjour.
Bonjour Thomas.
Vous êtes notre envoyé spécial sur place. Alors plusieurs zones d'ombre demeurent ce matin. On sait que l'une des attaques se situait près d'une synagogue sans qu'il soit possible d'établir précisément s'il s'agissait d'une cible des tireurs. Une chasse à l'homme a par ailleurs été lancée la nuit dernière car au moins un suspect se trouve toujours actuellement en fuite. Enfin, s'agissant de l'un des agresseurs abattus par la police hier soir, les indices recueillis à son domicile tentent à prouver qu'il était un sympathisant du groupe terroriste État islamique, même si, Ludovic, les attaques n'ont toujours pas été revendiquées.
En effet, et ses sympathies pour le groupe terroriste État islamique ne font aucun doute. En tout cas, Karl Nehammer, le ministre de l'Intérieur, l'a dit très tôt ce matin devant la presse. Il était 6 heures après, en effet, une perquisition à son domicile plutôt fructueuse. Son identité n'a pas été compliquée de toute façon à trouver. Il était suivi par les services de renseignement, connu puisque déjà condamné pour terrorisme pour avoir voulu rejoindre la Syrie. Il était équipé d'une fausse ceinture d'explosifs, armé en plus de sa Kalachnikov, ce qui est une signature vraiment des Balkans, du trafic qui règne sur la route des Balkans, d'un pistolet aussi et d'une machette. Ce qui fait dire à la police qu'il était très bien préparé, je cite, capable de semer un chaos comme hier soir. Écoutez Moïse, ce témoin, il habite juste au-dessus de la place de Suède.
Je suis architecte, je travaille là, mais j'étais concentré et j'ai justement
écouté les
coups de feu.
Oui.
Vous avez regardé à la fenêtre ?
Il y a 300 personnes qui sont allées dans le métro.
Voilà cette foule qui a cherché à s'échapper le plus vite et le plus loin possible de cet enfer. Sur la Schwedenplatz, Vienne n'avait pas connu d'attentat terroriste depuis 1981. Un groupe terroriste palestinien avait à l'époque tué 2 personnes dans la synagogue dont vous avez parlé, Thomas, située dans la même rue où ont retenti les premiers coups de feu hier soir.
Merci Ludovic Piétenu en direct de Vienne. J'ajoute que le chancelier Sébastien Kurz a décrété 3 jours de deuil national à partir de ce soir. Alors, faut-il le rappeler, cet attentat dans une ville où la criminalité est habituellement très faible intervient dans un climat très tendu en Europe, en France. 3 personnes ont été tuées jeudi dernier dans une attaque au couteau à la basilique Notre-Dame de l'Assomption de Nice. Je précise à ce titre que 5 personnes sont actuellement en garde à vue dans le cadre de cette enquête. Et puis bien sûr, quelques jours auparavant, la décapitation de Samuel Paty avait également choqué la France et bien au-delà. Cet attentat, la nuit dernière, a d'ailleurs aussitôt suscité de nombreuses condamnations à travers le monde. L'Union européenne, par la voix de son président du Conseil, Charles Michel, a condamné avec force cette attaque, évoquant, je cite, « un acte lâche qui viole la vie et nos valeurs humaines ». L'Allemagne voisine a également fait part de sa solidarité. La lutte contre le terrorisme islamiste est notre combat commun, a affirmé la chancelière Angela Merkel. Enfin, notons que dans la vague d'attentats islamistes survenus en Europe ces dernières années, L'Autriche avait jusqu'ici été relativement épargnée. Bertrand Galichet, bonjour.
Bonjour Thomas.
L'occasion aussi de rappeler, Bertrand, que dès son arrivée au pouvoir, Sébastien Kurz, du haut de ses 31 ans à l'époque, avait promis une tolérance zéro envers l'islam.
Oui, une politique entamée par ses prédécesseurs il y a longtemps. En 2015 déjà, l'Autriche avait adopté une législation visant à promouvoir un islam à caractère européen pour tenter d'éviter les dérives radicales. Le financement des organisations religieuses ou des imams par des fonds étrangers est interdit. Tous les imams doivent parler allemand. En contrepartie, des aumôniers musulmans sont présents dans l'armée ou les prisons et de la nourriture halal disponible à l'école. La question de l'islam, déjà centrale lorsque Sébastien Kurz gouvernait avec l'extrême droite du FPE entre 2017 et 2019, est revenue dans le débat à son retour au pouvoir avec les écologistes cette année. Dans l'accord de gouvernement figure par exemple l'interdiction du port du foulard islamique à l'école jusqu'à 14 ans. Le discours de fermeté du jeune chancelier sur l'islam, l'immigration, l'intégration et la protection des frontières rassure au-delà de son électorat. Le sujet n'est pas anodin en Autriche où vivent 800 000 musulmans sur une population totale de moins de 9 millions d'habitants. Jusqu'à présent, les attentats qui ont touché le reste de l'Europe ces dernières années ont en effet plutôt épargné l'Autriche. Deux affaires de terrorisme islamiste ont eu lieu en 2017 et 2018, mais il s'agissait d'actions isolées. Pour compléter ce tableau, s'ajoute un contentieux entre l'Autriche et la Turquie. Sébastien Kurz s'était monté au créneau en mars dernier pour dénoncer la tentative de Recep Tayyip Erdogan d'envoyer vers l'Europe des réfugiés se trouvant sur le territoire turc. Le chancelier autrichien avait qualifié cette manœuvre d'attaque de la Turquie contre l'Union européenne.
Merci Bertrand Galichet.
Et pendant ce temps, frappé de plein fouet par la deuxième vague de l'épidémie de coronavirus, Thomas Cluzel, les pays européens continuent de renforcer leurs restrictions, non sans provoquer d'ailleurs amertume et parfois même colère au sein de leur population.
Oui, alors parmi ces pays qui ont décidé d'imposer un nouveau tour de vis, à partir d'aujourd'hui, on l'a dit, l'Autriche avait prévu avant même cet attentat de se reconfiner. La Grèce a également décidé d'instaurer un confinement partiel ce mardi. La veille, c'est l'Allemagne qui avait instauré de nouvelles restrictions. De son côté, l'Italie a annoncé le reconfinement des grandes villes du pays. En France, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a lui annoncé ce matin qu'un couvre-feu serait réinstauré à Paris, peut-être en Île-de-France. Annonce toutefois aussitôt démentie par Matignon qui assure qu'une telle mesure n'est absolument pas décidée à ce stade. C'est ce qu'on appelle un couac de communication, autrement dit une maladresse, ainsi que l'a qualifié lui-même Jean Castex. Il faut dire que l'annonce semblait pour le moins explosive après que de nombreux maires se sont plaints ces dernières semaines de restrictions face à l'épidémie imposée sans concertation par l'exécutif. En revanche, il est un point sur lequel le gouvernement devrait s'accorder. Il s'agit de la liste des biens non essentiels interdits à la vente pendant le confinement. Un décret a été publié en ce sens ce matin pour préciser donc quels rayons pourront ou non rester ouverts dans les supermarchés, les enseignes de distribution jusqu'à demain pour se mettre en conformité. Alors on imagine déjà l'effervescence dans les coulisses, d'autant qu'en dépit de cette interdiction de vente dans les grandes surfaces de produits qui ne sont pas considérés donc comme de première nécessité, décision gouvernementale justifiée par un souci d'équité avec le commerce de proximité, eh bien les commerçants indépendants, eux, continuent pour autant de réclamer une réouverture dès que possible. Et pour cause, puisque certaines situations deviennent aujourd'hui absolument critiques, comme l'explique Eric Mertz, président de la Fédération nationale de l'habillement.
Aujourd'hui, j'ai des entreprises qui sont saines, des groupes qui sont sains. J'ai deux de mes adhérents qui a plus de 150 salariés, un qui en a 300, qui ne sont pas des petites entreprises, vous en conviendrez, et qui vont être en cessation de paiement d'ici la fin du mois. S'ils ne rouvrent pas, ils sont en cessation de paiement. Donc ça veut dire que dans 45 jours, ils sont en redressement judiciaire. Nous allons mais vraiment droit dans le mur. Et au pire, on se pose même la question à un moment donné de pouvoir forcer la main, je dirais, à l'État. Voire même de se poser la question d'engager des recours pour demander la réouverture. Donc là aussi, ce modèle, notre modèle aujourd'hui, ne peut pas supporter sur le secteur du textile et de l'habillement et d'une manière générale dans le commerce. Ne peut pas supporter des baisses de chiffre d'affaires aussi importantes que ça, surtout nous dans le secteur du textile et de l'habillement, pour la bonne et simple raison, c'est que nos achats, nous les avons faits il y a plus d'un an. Là, on est arrivé à un point de rupture, de faillite. C'est dramatique pour notre économie, c'est dramatique pour l'emploi, C'est dramatique pour le secteur de l'habillement et du textile indépendant, sauf à considérer qu'on veuille brader des pans entiers de notre économie chez Amazon.
Voilà, Eric Mertz, président de la Fédération nationale de l'habillement. Des lycéens ont brièvement bloqué ou tenté de bloquer ce matin une dizaine d'établissements en France pour protester contre le protocole sanitaire, à leurs yeux insuffisant, mis en place pour tenter d'enrayer la propagation de l'épidémie de Covid-19. Des perturbations qui, dans certains cas, ont conduit à l'intervention des forces de police. De son côté, la Fédération des parents d'élèves FCPE s'inquiète des risques de débordement, tout en dénonçant également les conditions d'accueil des lycéens en cette rentrée, entassés dans leur classe et qui ont du mal à comprendre pourquoi une telle promiscuité, alors qu'ils sont par ailleurs privés de leur vie sociale. Les explications d'Hakim Kasmi.
Manque de masques et de gel hydroalcoolique, non-brassage des élèves respectés à la cantine et dans les classes, le nouveau protocole sanitaire demandé par Jean-Michel Blanquer semble avoir du mal à se mettre en place, ce qu'avaient déjà anticipé les proviseurs, car avec la nouvelle réforme du baccalauréat, difficile de mettre en place des demi-groupes avec la multiplication des combinaisons de spécialités. Mathieu Devlavinck, le président de l'UNL, l'Union nationale des lycéens.
En cours et pas que cours éternel, c'est très compliqué, d'autant plus qu'avec les réformes mises en place par Jean-Michel Blanquer, c'est impossible de rester dans la même classe parce que avec les options, les enseignements de spécialité, on est obligé de bouger. Il y a un brassage qui est encore plus grand à cause de cette réforme-là, que ce soit pour nous, mais aussi pour les professeurs qui sont mis en difficulté. Eux aussi sont vulnérables face au coronavirus et eux aussi vont subir les conséquences du protocole sanitaire qui est mal appliqué.
Quant à un éventuel retour des cours en ligne pour les lycéens afin de régler ces problèmes sanitaires, pas question pour Mathieu Devlavinck, car cela risque de créer des inégalités chez les élèves.
Le tout distanciel, ça creuserait les inégalités, ça créerait un vrai mal-être chez des élèves qui se retrouveraient isolés, seuls, chez eux, avec parfois très peu d'aide. Il y a beaucoup d'élèves qui n'ont pas d'ordinateur, qui n'ont pas de connexion Internet suffisante pour suivre les cours à distance. Et c'est de même pour nos professeurs, ce serait très compliqué de se retrouver dans la même situation qu'en mai dernier.
L'intersyndicale composée de lycéens, de parents d'élèves et d'enseignants donne à Jean-Michel Blanquer jusqu'à vendredi pour trouver des solutions, sans quoi l'UNEL appellera à la grève dès la semaine prochaine.
Quand Veolia accélère le calendrier de son offre de rachat de Suez, le numéro 1 mondial du traitement de l'eau et des déchets envisageait jusqu'à présent de déposer son offre au plus tard lors de l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires, soit dans un délai de 12 à 18 mois. Et voilà qu'il s'engage désormais à déposer une offre dès que le conseil d'administration de Suez y sera favorable. En clair, Veolia entend bien passer outre le refus opposé par la direction et c'est ainsi que ce matin, Anne-Laure Jumet, lors d'une conférence de presse, le PDG du groupe en a directement appelé aux actionnaires de Suez, égratignant au passage son rival.
Un interlocuteur qui refuse le dialogue a un double discours et pratique une politique de la terre brûlée. Une nouvelle fois, Antoine Frérot, le PDG de Veolia, n'a pas mâché ses mots à l'encontre de la direction de Suez. Face aux différentes fins de non-recevoir opposées par son rival, Veolia passe donc à la vitesse supérieure, réaffirmant ce matin son intention de racheter, quoi qu'il arrive, l'ensemble du capital de Suez. Et il en appelle désormais aux actionnaires, à eux de convaincre le conseil d'administration que son offre est la seule issue possible. Et s'ils n'y arrivent pas, à eux de changer la composition du conseil lors d'une prochaine assemblée générale. Veolia n'a pas de doute que les actionnaires de Suez sont favorables à son projet. Le groupe pourrait d'ailleurs aussi voter lors de l'assemblée générale, lui qui a acquis 29,9% des parts de Suez. Mais pour cela, il lui faudra encore obtenir le feu vert des autorités de la concurrence. Nouvelle offensive donc du numéro 1 mondial de l'eau et des déchets qui ne manquera pas de faire réagir Suez. La direction est d'ailleurs auditionnée au Sénat cet après-midi. Du côté des syndicats, les réactions n'ont pas tardé. Sur Twitter, la CFDT estime ainsi qu'Antoine Frérot s'obstine, je cite, dans son projet mégalo et mortifère pour l'industrie et l'emploi.
Et j'ajoute qu'un appel à la grève est lancé pour demain par 5 fédérations de la CGT afin de défendre l'emploi dans les secteurs de l'eau et des déchets. Une grève prévue avant même ces nouvelles déclarations du patron de Veolia. Des dizaines de millions d'Américains se rendent aux urnes aujourd'hui pour une élection présidentielle historique aux allures de référendum sur la présidence inédite de cet homme, Donald Trump, qui en ne s'imposant aucune contrainte et en s'affranchissant de toutes les normes aura réussi durant toute la durée de son mandat à alimenter toutes les colères comme les fractures de son pays. Alors hier, affichant une confiance inébranlée, le candidat républicain a bouclé sa tournée de campagne avec une journée marathon de 5 meetings, dont le dernier dans le Michigan, l'occasion de balayer ses sondages qui depuis des mois le place derrière son rival démocrate Joe Biden et de promettre de créer de nouveau la surprise comme lors de sa victoire en 2016. Reportage à Grand Rapids, signé Benjamin Illy.
All I want for Christmas is a Trump victory. Oh, oh, oh.
Un Père Noël trumpiste qui a déjà une petite idée de ce qu'il veut pour les fêtes. Une victoire de Donald Trump, évidemment. Donald Trump arrivé à minuit à Grand Rapids, Michigan, au bout d'une folle journée qu'il a vu sillonner quatre États, au bout d'une campagne marathon qui a ignoré le coronavirus et rassemblé les foules très peu masquées. En 2016, il avait conclu sa tournée au même endroit. Par superstition, il l'avoue, il est revenu faire le bilan, promettre des lendemains florissants pour l'économie. Il est venu dire que Joe Biden était contre les armes, le pétrole, et Dieu. Il est venu aussi remercier sa famille, évoquant par l'humour peut-être quelques doutes sur la suite.
Don Jr., Eric, Ivanka, Tiffany.
Donald Jr., Eric, Ivanka, Tiffany, je n'ai pas les mots pour vous dire combien je suis fier. Et quoi qu'il arrive, je suis très fier de vous tous. Mais si on ne gagne pas, je ne leur parlerai plus jamais. Nous allons avoir une vague rouge. Ils l'appelleront la grande vague rouge, comme on n'en a jamais vu jusqu'à maintenant. La vague républicaine, la victoire inattendue, ses partisans veulent y croire. Ils invoquent encore et toujours la majorité silencieuse, le vote caché. La majorité silencieuse va se montrer, ce ne sera pas serré, assure cet homme. Les partisans de Donald Trump peuvent avoir peur parfois d'exprimer leur soutien, explique Laura, 39 ans, physiothérapeute. Et ces gens se font discrets, mais quand c'est le moment de voter, c'est là que nous sortons et que nous faisons entendre notre voix. Oui, on fait partie de la majorité silencieuse, ajouterait, 75 ans, retraité. On reçoit beaucoup d'appels téléphoniques des instituts de sondage. On me demande pour qui je vais voter. Et souvent, je réponds, bien sûr, je vote Biden. Je ne crois pas au sondage.
Wow, I love you too.
We love you, on vous aime, la déclaration d'amour d'un public fidèle à un président sortant a bien décidé à faire mentir les sondages comme il y a 4 ans.
Voilà, un reportage dans le Michigan signé Benjamin Illy. Et pour continuer d'évoquer les enjeux de cette élection présidentielle américaine, invité de la rédaction aujourd'hui, Mathieu Gallard, directeur d'études au département Public Affairs d'Ipsos, spécialiste des États-Unis. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Alors à l'entendre, on l'aura compris, Donald Trump n'a jamais envisagé sa défaite face à Joe Biden. Et s'il venait à l'emporter, parce que pendant 4 années déjà, le monde entier aura assisté, parfois enthousiaste, mais le plus souvent médusé, voire effrayé au spectacle de cet homme, on imagine assez facilement quelle sera la nature de son second mandat. On connaît moins en revanche Joe Biden, même si l'ex-bras droit de Barack Obama fait figure de vétéran de la politique américaine. Qu'est-ce qui changerait fondamentalement en cas de victoire du candidat démocrate ?
Alors tout dépend en fait des élections au Congrès qui ont lieu aussi en même temps que les élections présidentielles. Si Joe Biden remporte une victoire aussi aux élections au Congrès, là il pourrait mettre en place des réformes ambitieuses à la fois du point de vue économique et social, notamment en ce qui concerne le domaine de la santé, mais aussi peut-être du point de vue de la réforme démocratique. Mais vraiment tout dépendra de sa capacité à obtenir une majorité à la Chambre des représentants, ce qui est quasiment assuré, mais surtout au Sénat. Et là, c'est beaucoup plus incertain.
Ce scrutin, on le sait, oppose deux hommes donc, qui sont radicalement différents. Donald Trump affiche, lui, le visage triomphant d'un populisme décomplexé. Au-delà de ses provocations, au-delà de ses transgressions, quel est aujourd'hui son bilan ? L'effondrement économique, notamment annoncé par certains après son élection, n'a pas eu lieu. Et force est de constater qu'il a tenu une partie de ses promesses de campagne.
Incontestablement, la stratégie de Donald Trump lors de cette campagne électorale, initialement, c'était de faire fond sur son bilan économique, qui était plutôt satisfaisant, incontestablement. Juste avant la crise sanitaire, au printemps dernier, le taux de chômage avait atteint un niveau de 3,8%, ce qui est historiquement bas aux États-Unis. Et donc, toute sa stratégie était de montrer à quel point, oui, effectivement, il avait rempli ses promesses. Et il avait remis en route le rêve américain. Là, effectivement, la crise sanitaire est venue un peu briser cette volonté. Le chômage a explosé au mois de mars, au mois d'avril, au mois de mai. Il a un peu redescendu depuis. Mais c'est ça vraiment la difficulté pour Donald Trump durant cette campagne. C'est de retrouver un message pour attirer un certain nombre d'électeurs indécis. Ce message de dynamisme économique, il est difficilement audible dans le contexte actuel.
Quelle est la part justement de l'impact ravageur du coronavirus ? Est-ce que sans cette épidémie, Joe Biden aurait été aussi haut dans les sondages ?
Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on constate que depuis en fait un an, les sondages n'ont quasiment pas bougé. Joe Biden a toujours été largement en tête dans les sondages nationaux tout au long de la campagne, avec environ 6-8 points d'avance. C'était le cas en janvier dernier, c'est le cas aujourd'hui. Donc, on peut se dire que le coronavirus n'a finalement pas eu beaucoup d'impact. Je pense quand même qu'il a eu un impact, effectivement, en faisant en sorte que l'argument principal de Donald Trump tombait à l'eau, c'est-à-dire cet argument économique, cette volonté vraiment de faire campagne sur son bilan économique qui, jusqu'à la crise sanitaire, était vraiment un de ses succès principaux. Sûrement, sans la crise du coronavirus, effectivement, Donald Trump aurait eu beaucoup plus de marge de manœuvre pour mener une campagne beaucoup plus dynamique et pour convaincre un certain nombre d'électeurs indécis ou d'électeurs potentiellement abstentionnistes.
La participation à ce scrutin s'annonce a priori historiquement élevée, en particulier justement parce que des dizaines de millions d'électeurs ont voté par anticipation en raison du virus. Sauf que cette accumulation record de votes par courrier, qui dans certains États pourrait affluer jusqu'à plusieurs jours après la journée d'aujourd'hui, risque de compliquer du coup le dépouillement, voire de retarder l'annonce du vainqueur si le résultat est serré. Y a-t-il un risque de discréditation, d'illégitimisation du processus électoral?
Alors effectivement, vous avez tout à fait raison. Hier soir, on avait 99,6 millions d'Américains qui avaient voté de manière anticipée, que ça soit effectivement dans des bureaux de vote ou par correspondance ou même sur Internet. C'est possible dans certains États. En 2016, on avait à ce stade seulement, si j'ose dire, 47 millions d'électeurs qui avaient voté. Donc effectivement, il y a une forte mobilisation et a priori, on devrait arriver demain soir dans la nuit en tout cas, à une participation historique, ce qui quand même viendra forcément renforcer, quoi qu'il arrive, la légitimité du vainqueur. Après, effectivement, il risque d'y avoir des longueurs dans le dépouillement, tout simplement parce que dans la plupart des États, on ne peut pas dépouiller les votes par correspondance au fur et à mesure de leur arrivée dans les bureaux de vote. On ne peut les dépouiller que dans la nuit qui arrive, et donc leur masse risque de rendre le processus beaucoup plus long que d'habitude. C'est possible effectivement que Donald Trump, et il l'a annoncé, tente de prétendre qu'il faille arrêter le dépouillement, etc. Néanmoins, le système judiciaire tient bon et devrait faire en sorte que la procédure se déroule comme à son habitude. Donc c'est possible effectivement que l'électorat, la base électorale de Donald Trump conteste une défaite de son champion. Néanmoins, d'un point de vue purement démocratique et purement juridique, il ne devrait pas y avoir de problème majeur, sauf en cas d'élection extrêmement serrée dans un ou deux swing states, où on pourrait se retrouver comme en Floride en 2000, où tout s'était joué à 500 voix près entre George Bush et Al Gore.
Merci Mathieu Gallard, directeur d'études au département Public Affairs d'Ipsos, spécialiste des États-Unis, d'avoir répondu à notre invitation. Et tandis que le monde a donc les yeux tournés autant sur cette élection américaine que sur la pandémie de Covid-19, eh bien des feux sans précédent continuent de ravager l'Amazonie brésilienne et tout particulièrement le Pantanal, la plus grande zone humide de la planète, véritable sanctuaire de la biodiversité. Le mois dernier, plus du double du nombre d'incendies a été enregistré par rapport à ceux répertoriés lors de la même période l'an dernier. Et ce donc malgré la présence de l'armée qui assure agir au quotidien pour tenter d'empêcher les départs de feu. C'est une correspondance signée Anne Vignard.
Le chiffre est précis et très inquiétant. Les incendies ont encore augmenté en Amazonie brésilienne, et cette fois de 121% en ce mois d'octobre par rapport à octobre 2019. 17 326 feux de forêt ont été répertoriés pendant ces 30 derniers jours, selon le programme incendie de l'Institut national de recherche spatiale qui mesure la déforestation au Brésil. En comparaison, ce sont près de 10 000 incendies de plus qu'il y a un an. En octobre 2019, cet institut avait comptabilisé 7 855 départs de feu. Ces données sont d'autant plus inquiétantes que l'utilisation des techniques de brûlis sont toutes interdites depuis mai dernier. De plus, le gouvernement vante l'action de son armée et son opération Vert Brésil contre les incendies, mais les résultats ne sont pas au rendez-vous de toute évidence. Les militaires n'ont pas l'air d'impressionner beaucoup les criminels qui se savent soutenus au plus haut niveau. Jair Bolsonaro nie l'existence même de ces feux et a délibérément diminué le budget de l'IBAMA, la police de l'environnement au Brésil, bien plus efficace que l'armée sur ces sujets. Plus au sud, au Pantanal, la plus grande zone humide de la planète connaît elle aussi des incendies inédits cette année. 23% de sa superficie est partie en fumée, là encore par des feux d'origine humaine.
On termine avec un mot du temps pour cet après-midi encore marqué par une perturbation pluvieuse sur les Alpes du Nord et les Pyrénées. Partout ailleurs, le ciel alternera entre nuages et éclaircies. Quant aux températures, elles afficheront entre 11 et 20 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Paumet. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.